GAFAM Nation, la toile d'influence des géants du web en France. Mardi 13 décembre 2022, l'Observatoire des multinationales a publié un rapport très complet sur les pratiques de lobbying des GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, leurs pratiques en France. Un document éclairant et particulièrement utile tant il y a peu de données disponibles sur ces pratiques au niveau français. Et l'April avait d'ailleurs publié un communiqué que vous pourrez retrouver en référence sur la page de l'émission. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir en studio les deux journalistes qui ont rédigé ce rapport, Chiara Pignatelli et Olivier Petitjean, pour nous parler de cet important travail. Et j'ai d'autant plus de plaisir à les recevoir que nous avons dû plusieurs fois reporter la réalisation de cette émission, et notamment du fait de l'important mouvement social en cours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Chiara, Olivier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Eh ben, je vous propose de commencer de manière très traditionnelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, Olivier?
Bonjour, donc je m'appelle Olivier Petitjean. J'ai eu l'honneur avec un collègue journaliste qui s'appelle Yvan Duroy de créer l'Observatoire des multinationales il y a bientôt 10 ans. Donc je pense qu'on reviendra un peu sur le projet. Et donc avec Chiara, on a travaillé à l'automne dernier sur ce rapport qui visait à mettre en lumière, comprendre comment ça fonctionne, l'influence de Big Tech et des GAFAM. Il y a une petite nuance, subtilité terminologique sur laquelle on revient dans le rapport, mais bon, on montre en quoi le terme GAFAM est en fait est pertinent pour cibler, et pourquoi cibler ces grandes entreprises en particulier.
Et on va y revenir dans notre échange aussi, parce que je pense que la question est intéressante. Chiara?
Je m'appelle Chiara Pignatelli et je suis membre de l'Observatoire des multinationales et co-rédactrice du rapport sur les GAFAM.
Super. Alors, est-ce que peut-être ça pourrait être intéressant de savoir aussi ce qui se cache, mais c'est quoi l'Observatoire des multinationales? Qu'est-ce que c'est? C'est un média? C'est un consortium?
À la base, c'est un projet journalistique. Donc, j'ai dit, ça a été créé, en fait, c'était incubé et créé dans le cadre d'un média engagé qui s'appelle Basta, Basta.media, que vous connaissez peut-être, qui existe encore aujourd'hui, qui s'est créé pour suivre l'actualité sociale et écologique. Et très tôt, donc il y a presque 10 ans, comme je disais, comme sur ces sujets socio-écologiques, on avait beaucoup à faire à des grandes entreprises, à leur influence. Une des spécificités de Basta, c'est aussi de travailler sur les questions internationales, donc aussi les impacts des grands groupes français à l'étranger, etc. On s'est dit, il y a besoin de monter en compétence sur ces questions, les multinationales, comprendre comment elles fonctionnent, et avoir une vraie expertise qui existait pas vraiment, notamment dans le milieu journalistique. Et à la base du projet, c'était ça. Ensuite, ça a évolué. On a été amené à petit à petit s'autonomiser de Basta, créer une structure qui aujourd'hui a une double facette. En fait, il y a une facette toujours journalistique. Donc, on a un média d'investigation sur les grandes entreprises, notamment françaises, mais là, pas seulement, parce que c'est aussi les grandes entreprises étrangères en France, comme en l'occurrence les GAFAM. Et d'autre part, on n'est pas vraiment une organisation militante, mais disons l'équivalent d'un think tank, au sens où on essaie de travailler avec des acteurs engagés de la société pour réfléchir à des propositions, pour montrer qu'il y a des alternatives. Et là encore, on est vraiment dans le cœur du sujet avec les GAFAM, et pour montrer voilà que les trajectoires des politiques telles qu'elles sont composées, disons dans une alliance étroite entre le gouvernement et les grandes entreprises. Donc ça peut être pour dans certains cas des alliances l'État, Renault, Total, etc. Et là, ce qu'on montre en fait dans ce rapport, et on va y revenir, c'est que c'est un peu la même chose malgré tout ce qu'on entend sur la souveraineté numérique, les startups, etc. En fait, c'est des politiques qui sont conçues dans le cadre de cette alliance non dite, mais très forte entre le gouvernement français et pas seulement français, et voilà, ce milieu des grandes entreprises.
Je vais en profiter pour saluer, je ne savais pas qu'il y avait ce rapport avec Basta, et moi je trouve que c'est vraiment un excellent média. Je vous recommande notamment le portail.basta.media, qui est pour moi un très bon outil de veille et qui recense différents médias sur différents sujets économiques, environnementaux, et que je partagerai le lien, voilà, que je vous recommande. Merci pour cette présentation très claire. Alors moi j'ai été notamment, donc Chiara m'avait interviewé dans le cadre de ce rapport. D'ailleurs on va revenir sur comment vous avez travaillé. Mais là où j'ai eu un grand plaisir en tant que salarié de l'April, c'est que vous m'avez proposé, pour mener cette interview, d'utiliser un Big Blue Button, donc un logiciel libre de vidéoconférence. C'est pas forcément le cas la plupart du temps, ce serait plutôt sur des outils privateurs. Donc j'étais très heureux de voir ce choix. Et du coup, ça m'amène à la question, déjà individuellement, quel est votre rapport peut-être à ces questions? Est-ce que vous utilisez du logiciel libre? Et puis dans le cas plus spécifique de l'Observatoire des multinationales, est-ce qu'il y a tout de suite eu cette volonté de recourir à des logiciels libres? Est-ce que c'était par opportunité, par conviction?
À titre personnel, au fur et à mesure que je m'intéressais aux GAFAM, je me suis intéressée plus globalement aux libertés informatiques, au monde du logiciel libre, etc., que je connaissais pas du tout. Et je me suis aperçue qu'il y avait des enjeux super intéressants autour de la neutralité du net, du partage de connaissances, etc. Et donc, j'essaie d'utiliser de plus en plus de logiciels libres, comme Wiccan, par exemple.
Alors, pas Wiccan, je ne sais pas ce que c'est comme logiciel. Est-ce que vous pourriez nous...
C'est un logiciel de gestion de projet, un peu comme Trello, mais c'est la version libre.
D'accord.
Et oui, plus globalement, au niveau observatoire, bon, c'est clair que de par notre sujet de travail, les multinationales, on ne peut qu'être sensibilisés à cette question. Et donc, par cohérence, même si on est loin d'être parfait sur ce point, on essaie d'utiliser des outils libres. Et il y a plusieurs enjeux qui sont clairs. Il y a un enjeu qui est évidemment auquel on est sensible, qui est la question de éventuellement la surveillance, etc., du contrôle des données. Mais surtout, et c'est sur ça que je voudrais insister, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la question de... Quand on travaille sur les multinationales, on se rend compte qu'un des ressorts de leur pouvoir et de leur influence, et on est dans le corps sujet, c'est de nous rendre dépendants et de rendre les politiques dépendants et de nous mettre dans des situations où on n'a plus le contrôle sur de nous enfermer dans certaines trajectoires, disons. Et voilà, au-delà des questions de surveillance qui sont un peu secondaires malgré tout, il y a cette question essentielle qui est de garder le contrôle sur ce qu'on fait, donc sur nos outils. Et il y a aussi cette sensibilité, c'est vraiment, et pareil, ça s'applique au secteur numérique, au GAFAM, c'est voilà, il faut toujours maintenir des alternatives vivantes, la diversité, y compris avec des formes non lucratives, c'est important, et c'est une des manières de résister à l'emprise des multinationales, c'est de toujours maintenir des alternatives. Toujours dire oui, bon, c'est possible de faire avec les multinationales, mais c'est aussi possible de faire autrement, via le secteur public, via le secteur non lucratif, via les petites entreprises. Et c'est vrai en matière de tout, de services publics, de l'eau. Oui, il y a des multinationales, mais bon, c'est bien et c'est mieux sans doute qu'il y ait des services publics, etc. C'est vrai en matière d'alimentation. Oui, il y a Carrefour, il y a Danone, mais on peut aussi avoir des circuits courts. Et pour nous, c'est exactement la même chose que sur le numérique. Oui, ok, il y a des outils qui sont des fois super impressionnants, super utiles, etc. De Google et autres, mais c'est important par principe, même si des fois ça implique des chemins un peu plus difficiles. Mais comme ça a été dit dans la chronique précédemment, en fait, on se rend compte que souvent les outils des GAFAM ont plein de fonctionnalités dont on n'a pas l'usage et qui servent à monétiser un peu ça. Donc c'est bien par principe aussi d'essayer autant que possible d'utiliser des outils libres.
Même si c'est parfois difficile de les éviter, tant ils se montrent comme indispensables, comme on l'explique bien dans le rapport.
Oui, tout à fait. Et je pense que ça sera une question sur laquelle je voudrais qu'on vienne. C'est un peu cette colonisation de nos imaginaires. Et c'est parfois difficile déjà culturellement de s'en extraire. Et puis après, bah, effectivement, il y a des usages qui ont été développés par ces grandes entreprises. Et bah, c'est difficile de les contourner, de prendre des chemins de traverse et de développer. Mais d'où l'importance de développer aussi des contre-pouvoirs technologiques. J'aurais une dernière question avant qu'on se penche sur le rapport en lui-même. Et je trouve dans cette période, c'est une question qui me paraît importante dans cette période où on semble avoir un rapport de plus en plus flexible, y compris de la part de certains représentants politiques, à ce qui serait le réel un petit peu. Et c'est l'importance, me semble-t-il, du travail de journalisme, enfin des journalistes. Et du coup, c'est quoi pour vous le travail du journaliste, des journalistes? Quelle est l'importance du journalisme dans une démocratie? Vaste question, voilà, je sais que c'est pas forcément évident, mais je voulais avoir votre lecture puisqu'on n'a pas si souvent l'occasion d'échanger.
Je pense que c'est une vaste question effectivement. Je pense un des rôles en tout cas essentiels du journalisme et une des manières dont il est un peu consubstantiel à l'idée même de démocratie, au moins au sens moderne du terme, où il n'y a pas des grandes agora comme à l'époque d'Athènes où on pouvait se parler, tout le monde se connaissait, etc. C'est de maintenir, c'est à la fois d'un côté de tenir les puissants, les pouvoirs en place pour responsables de leurs actes, donc une mission de veille citoyenne, de les forcer à rendre des comptes. Et ça, c'est clairement le journalisme, il s'est constitué avec l'idée de forcer les politiques, donc ciblant le pouvoir politique dès le 19e siècle, les forcer à rendre des comptes, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, quelles étaient les conséquences, etc. Les affaires de corruption. Et nous, un peu notre argument, c'est que du coup, le journalisme s'est resté très focalisé sur le pouvoir politique, mais qu'il y a besoin de faire un travail similaire pour ce qu'on appelle les pouvoirs économiques, qui ne sont pas des pouvoirs officiels, mais c'est quand même clairement des pouvoirs. Et voilà, donc c'est un peu notre idée. C'est pour ça qu'on reste des journalistes, même si on est des journalistes engagés. Mais en un sens, tout journalisme, quand il est voué à faire pousser les puissants, les pouvoirs en place à rendre des comptes est toujours une forme de journalisme engagé, même si voilà, ça peut être celui sur le bouleversement politique, il est beaucoup plus accepté, ça choque personne que des journalistes disent « Ah oui, mais vous avez dit ça, mais c'est ça que vous faites à un politique, ou vous remettez en question ce qu'un politique dit », alors que ça reste un peu dans la sphère médiatique telle qu'elle existe, ça reste un peu choquant de d'interpeller de la même manière un PDG ou un responsable économique, etc. Donc voilà, ça c'est le premier versant. Mais donc on est engagé, mais on reste, on utilise les outils et les codes et les règles déontologiques du journalisme. Et ça, c'est vraiment important. Ça touche à votre question. Tout ce qu'on fait, c'est basé. On essaye autant que possible en utilisant la méthodologie journalistique, que ce soit basé sur des faits. Et on dit voilà ce que les faits disent. Ensuite, et faire la différence entre ce qui est fait, ce qui est supposition, ce qui est juste témoignage de sources, mais juste de l'ordre du on dit, etc., qui est juste une indication. Et donc ça, c'est des règles qui, effectivement, dans le contexte actuel, plus que jamais, sont importantes à maintenir. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus confrontés à des... Quand on sort des chiffres qui, pourtant, souvent sont basés sur des données publiées par les entreprises ou le gouvernement, à des dirigeants politiques qui disent « Non, c'est pas vrai !» et qui balaient ça d'un coup, alors que... Et face à ça, c'est ouais, effectivement, on est un peu désemparés. Voilà,
c'est pas armes égales non plus, donc d'où l'importance.
Et je pense que le travail du journaliste aussi, c'est la volonté d'informer. Et dans le cas du pouvoir économique, d'informer les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, et de montrer au pouvoir économique que des gens s'intéressent à leurs pratiques et veulent les rendre publiques.
Très important. Et c'est ce qu'on appelle, je pense, oui, une bonne illustration, ce qu'on appellerait le quatrième pouvoir, un petit peu, qui serait, voilà, les pouvoirs d'une démocratie sont censés un peu s'équilibrer, et d'avoir ce pouvoir-là, il paraît effectivement indispensable. Oui. Ben, merci beaucoup, moi ça m'a paru très clair, et je vous propose de plonger peut-être dans le vif du sujet. Donc vous avez rédigé un rapport qui s'intéresse aux pratiques de lobbying des GAFAM en France. Alors là, vous avez commencé à nous expliquer pourquoi finalement ce sujet, mais on peut peut-être revenir sur la genèse de cette démarche. Savoir si c'était d'abord parce que vous vouliez vous intéresser aux GAFAM ou c'était sur mieux comprendre les pratiques de lobbying en général. Bon, on peut commencer d'ailleurs par cette question. D'ailleurs, pourquoi finalement, quel était votre premier prisme, la genèse finalement de ce projet?
Ouais, c'est un projet qui est au croisement de plusieurs choses auxquelles on faisait de plus en plus attention depuis un certain temps. La première chose qu'il faut dire, c'est on s'est inspiré dans ce travail du travail qu'avaient fait d'autres ONG, notamment au niveau européen. Donc une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, avec laquelle on travaille beaucoup, qui est vraiment la référence sur les questions de suivi du lobbying au niveau européen. Et qui est une autre ONG qui s'appelle Lobby Control, qui est en Allemagne, qui fait un travail assez intéressant sur les big tech, etc. Et eux, donc, ils ont commencé à saisir du sujet depuis quelques années et constaté qu'au niveau européen, parce que on va y revenir, mais une des bases factuelles de notre travail, c'est de regarder ce qu'il y a dans les registres de transparence du lobbying où les acteurs comme les GAFAM sont obligés par la loi de publier certaines informations. Et ils ont constaté que depuis quelques années, en quelques années seulement, les GAFAM sont devenus en fait les plus importants lobbyistes de la place de Bruxelles. C'est-à-dire, en 2015, en gros, on était encore dans la phase où Google, Facebook, c'était tous des gentils qui allaient sauver le monde et ils étaient pas méchants, etc. Et tout à coup, les gens ont commencé à ouvrir les yeux un peu plus. Il y a eu des scandales, le Brexit, Trump, etc., Cambridge Analytica, beaucoup de choses, les contestations d'Amazon, enfin voilà. Et tout à coup, on a vu leurs dépenses de lobbying monter en flèche. Et aujourd'hui, alors qu'en 2015, les premiers lobbyistes à Bruxelles, c'était les compagnies pétrolières ou les géants de l'automobile, aujourd'hui, les premiers, c'est de loin les GAFAM et Huawei. Et bon, évidemment, les pétroliers et les automobiles sont encore très hauts, mais bon, voilà. Donc, ils ont montré, donc, dans un rapport qui est sorti il y a 2 ans, je pense, qui me corrigera.
Oui, 2021, et d'ailleurs, j'ai déjà mis le lien vers ce rapport qui est rédigé en anglais, mais qui est très instructif, effectivement.
Voilà,
sur les
donc ils ont documenté
européen.
Ça. Et une des premières impulsions, c'est de regarder ce qui se passait en France et si on observait qu'il y ait la même montée en force, disons, des GAFAM du versant politique, lobbying, etc. en France. Je pense une deuxième motivation, c'est le scandale des Uber Files. Donc ça, il est survenu en juillet dernier. Donc pour rappel, donc c'est un ex-lobbyiste d'Uber au niveau européen et français qui a sorti toute une série de documents sur leur campagne pour pénétrer les marchés européens et comment ils ont ciblé en particulier des hauts dirigeants, dont Emmanuel Macron, une commissaire européenne qui s'appelle Nelly Kroes.
Qui était ministre de l'économie.
Voilà, à l'époque où il était ministre de l'économie. Donc c'est vraiment sur la période de 2015-2016 où il y avait une première vague de contestation. Et comment ils ont pu financer des études d'économiste pseudo-indépendant pour dire ah, en fait Uber va créer plein d'emplois, etc. Donc ça a créé un scandale. À l'époque, il est un peu retombé, même s'il y a une commission d'enquête qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et voilà, Uber, c'était le méchant. Donc Uber, c'est un cas particulier. C'est pas un GAFAM, on l'explique dans le rapport. Mais il s'appuie sur l'infrastructure des GAFAM et il partage beaucoup de points communs idéologiques avec les GAFAM. Et y compris cette manière d'imposer leur présence, voilà, sans se faire voir, de mettre le pas dans la porte et mettre tout le monde devant le fait accompli. Et c'était le méchant, et ça, tout le monde disait, ah, vous regardez, c'est le méchant Uber avec ses stratégies un peu pourries de contacter les hauts dirigeants, de payer des études, etc. Une des choses qu'on voulait montrer, c'est qu'en fait, même si c'était un peu moins agressif, etc., en fait, les GAFAM faisaient exactement la même chose. Ça faisait partie de la panoplie des choses, des stratégies de multinationales, notamment les big tech. Et pardon, je suis un peu long et je monopolise la parole, mais dernier point, effectivement, quand on travaille sur les multinationales, de fait, on travaille beaucoup sur le lobbying des multinationales, parce que leur pouvoir, leur poids est inséparable de leur poids politique est inséparable de ce qui fait leur poids économique, et c'est parce qu'elles ont une influence politique forte qu'elles réussissent à préserver leurs intérêts économiques. Et donc nous, on a beaucoup travaillé sur les questions de lobbying au sens large, notamment en matière climatique. Et effectivement, on était curieux de traiter ça dans le cas des GAFAM, parce que ce qu'on montre dans le rapport, et on va y revenir en long en large, c'est que les GAFAM, d'une certaine manière, ils peuvent utiliser toutes les mêmes armes d'influence que les autres multinationales, mais en plus, ils en ont des très spécifiques et très puissantes qui mettent à profit pour être encore plus influents, quoi.
Oui, on va y revenir. Et alors, Olivier, vous aviez un peu évoqué cette question de dire qu'il y avait quelque chose de très spécifique des GAFAM que vous distinguiez des Big Tech. Big Tech, c'est plutôt aux États-Unis notamment, ils utilisent plutôt cette formule-là. Alors du coup, pourquoi cette focale GAFAM? Donc on rappelle l'acronyme, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Pourquoi c'est focal vers eux? Et le fait que ce soit vers la France, vous l'avez expliqué, parce que notamment effectivement en Europe, on avait déjà des rapports, mais pas en France. Chiara, peut-être?
Parler de GAFA, même si on va aussi parler de Uber, etc., c'est utiliser une expression qui est communément admise, qui parle à tout le monde. Donc, quand on a vocation d'informer, c'est toujours bien. Et aussi parce qu'en fait, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est des entreprises et des outils qui sont utilisés par presque tout le monde, voire tout le monde, et qui ont le monopole dans leur secteur d'activité. Même si aujourd'hui, on sait que les 5 GAFAM ont largement élargi leur champ d'activité. À l'origine, c'est quand même des entreprises qui ont le monopole voilà, sur ça, et donc qui ont construit tout un modèle économique, culturel, etc., sur lequel les autres entreprises, donc Uber, Deliveroo, etc., vont se caler. Donc c'est les GAFAM qui ont posé les règles. Et voilà. Et comme on l'a dit, c'est un sujet qui n'avait pas été traité au niveau de la France, et c'est bien de montrer que le lobbying ne s'arrête pas, ce n'est pas que à Bruxelles comme une représentation qu'on peut avoir, mais que c'est bien aussi au sein des institutions françaises et du modèle culturel français, médiatique, etc.
Ouais, je pense que ce qui distingue les GAFAM, les 5 GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, c'est par rapport à tous les autres acteurs de la big tech, c'est un, leur poids économique. Donc quand on regarde les chiffres, et même par rapport à Twitter, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est vraiment des acteurs qui ont beaucoup de ressources, même si en ce moment ils sont en crise, mais faut relativiser la crise qu'ils traversent en ce moment, parce que c'est la crise qu'ils traversent en ce moment, les suppressions d'emplois dont on entend parler, c'est aussi parce qu'ils ont vraiment beaucoup créé d'emplois au moment du Covid, donc ils ont vraiment embauché à tour de bras. Et là, effectivement, c'est une période plus compliquée parce qu'ils profitaient de l'argent facile. Maintenant, il n'y a plus l'argent facile, donc ça baisse, etc. Mais ils restent quand même, en termes de poids économique, des mastodontes. Et la deuxième chose, effectivement, je vais insister sur ce qu'a dit Chiara, c'est ce qui est crucial, c'est ces 5 entreprises de différentes manières, parce que à la base c'est pas le même outil de base, la brique de base c'est pas la même, un moteur de recherche, du commerce en ligne, etc. Mais elles ont une même stratégie qui est basée à la fois sur le monopole, donc vraiment avoir des positions, des parts de marché énormes sur leur secteur d'activité. Google 90% des recherches, je crois, Amazon en termes de commerce en ligne, c'est énorme. Et ensuite sur ça, en utilisant notamment le contrôle des données pour bâtir, et c'est des entreprises multi-outils en fait, et qui de plus en plus sont construites comme un package qui joue les synergies, je sais pas comment dire, entre leurs outils. Donc Amazon, c'est maintenant c'est le commerce en ligne, mais c'est aussi le cloud, c'est aussi le streaming, etc., etc. Et on peut dire la même chose de manière différente, bien sûr, des cinq, avec la seule spécificité d'Apple qui était plus aussi sur le côté matériel, etc. Mmh.
Et je pense que c'est intéressant aussi de dire que les GAFAM ont vraiment implanté leur modèle et qu'aujourd'hui en France, on va parler de licorne française, notamment ces dernières années, de pousser la souveraineté numérique, etc. Mais ce sera toujours selon ces règles et selon ce modèle imposé au préalable par les GAFAM.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment, elles ont, comme l'a dit très bien Dikira, elles ont créé le terrain de jeu, en fait. Elles nous obligent à jouer dessus et obligent les gouvernements à jouer dessus. Et donc c'est vraiment ce pouvoir de créer le terrain de jeu avec les règles et de contrôler les règles qu'on cible, quoi.
Du coup, j'ai envie de citer, la citation de votre rapport que je trouve vraiment excellente sur cette question de souveraineté numérique. Alors vous écrivez, la souveraineté numérique, c'est avant tout notre capacité à décider collectivement et démocratiquement des usages que nous souhaitons faire des outils numériques et dans quelles conditions, et de ne pas subir les usages dont nous ne voulons pas. C'est précisément cette capacité que la toile d'influence des GAFAM contribue à réduire. Son principal ressort est de nous faire croire, ou au moins de faire croire à nos dirigeants politiques, que leur expansion est inarrêtable et que le monde qu'ils nous préparent est inéluctable. Ce qui revient finalement à ce que vous nous avez bien éclairé. Et du coup, puisqu'on parle de conclusion, enfin, c'est peut-être que si vous voulez pousser d'ailleurs sur la définition que je viens de citer, n'hésitez pas, mais j'aimerais vous demander, voilà, quelles sont les principales conclusions, on va revenir après dans les détails, mais les principales conclusions de votre rapport, et savoir si finalement ces conclusions pour vous étaient une surprise ou ça correspondait à peu près à ce à quoi vous vous attendiez.
Je pourrais dire, pour revenir sur ce que vous avez dit, qu'on parle de capacité à définir collectivement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat en fait sur le modèle des GAFAM. C'est toujours comment on va les réguler, etc. Mais leur existence même n'est pas remise en cause. Et surtout au niveau du gouvernement, où même les services publics, on reviendra là-dessus, utilisent les GAFAM sans s'intéresser à des outils libres, etc. Et sinon, je pense que, Olivier, tu pourras compléter, mais ce qui est vraiment important de retenir... c'est que les GAFAM utilisent des techniques de lobbying classiques sur lesquelles on reviendra, portes tournantes, des cabinets de conseil, etc. Mais qu'elles ont vraiment, ces dernières années, dépensé... donc en 2021, c'est plus de 4 millions d'euros, juste ces 5 entreprises-là, dans le lobbying en France, contre 1 300 000, il me semble, en 2017, donc seulement 4 ans avant. Et que aussi, c'est vraiment, on le dit dans le rapport, des entreprises qui imposent un modèle culturel, qui infusent vraiment toute la société et qui veulent se montrer comme on ne peut pas passer à côté. Voilà, donc il y a tout un soft power dont on va encore reparler, qui est hyper intéressant à décrypter.
Oui, on revient, il y a plusieurs notions qui ont été évoquées, on va revenir en détail. Merci beaucoup.
Ouais, je dirais, pour moi, la conclusion, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a vraiment... il y a vraiment faut prendre la mesure de ce que veut dire l'influence des GAFAM et à quel point elle pèse sur les politiques. Et effectivement, cette notion de souveraineté numérique telle que la conçoit le gouvernement, c'est un peu une caricature de ce que c'est, par rapport à ce que serait vraiment la souveraineté. Pour eux, la souveraineté, c'est qu'il y ait voilà, des étudiants d'HEC qui arrivent à monter quelques startups et se fassent $1 milliard. Et ça, c'est la souveraineté, quoi. Alors que voilà, là, c'est pas ça la vraie souveraineté. Et donc c'est vraiment un app et montrer que même si donc c'est pas bon, on pointe beaucoup du doigt le fait que les administrations publiques aient des difficultés et travaillent beaucoup avec les GAFAM, mais on sait aussi que même au sein du secteur public et au-delà, il y a des gens qui essaient de faire des choses, de développer des outils hors GAFAM, mais ça pèse, notre constat et notre conclusion, c'est que ça pèse relativement peu par rapport à une impulsion, une politique générale qui nous semble quand même venir du sommet, pas seulement d'Emmanuel Macron, mais de son monde, de ministres, etc., qui reste totalement acquis à une vision du monde et du numérique, qui est en fait celle conçue par la Silicon Valley et par les GAFAM.
Le tout numérique et encourager les licornes françaises et ce genre de termes.
Oui, je reviens sur cette idée d'imaginaire, mais on voit beaucoup les inerties. Et c'est vrai qu'en nous, à l'April, tout un point de notre action, c'est d'amplifier le rapport de force politique en faveur du logiciel libre et des libertés informatiques. Et on voit qu'il y a une montagne aussi à pousser, incarnée par ces GAFAM. Je vous propose, avant de rentrer dans les détails de vos conclusions, voilà, sur ces portes tournantes, sur ce pantouflage, sur ce soft power, de faire une pause musicale. Nous allons écouter Peau Rouge par Les Gueules Noires. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
planète, victime quotidienne des actes malhonnêtes, conneries européennes. Plus rien n'arrête ces mitraillettes américaines. J'ai trop de haine. Le capitalisme a réussi ce que le fascisme n'avait pas fini. Demain, dès l'aube, il n'y aura plus un homme sauf moi, ici, elle.
Nous venons d'écouter Peau Rouge par Les Gueules Noires, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous pouvez retrouver une interview de Corentin, membre du groupe, dans le podcast Libre à vous numéro 148.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
J'ai plaisir de discuter avec Chiara Pignatelli et Olivier Petitjean, journaliste au membre de l'Observatoire des multinationales et auteur et autrice du rapport GAFAM Nation, la toile d'influence des géants du web. Chose que j'ai oublié de préciser peut-être avant la pause que je voulais signaler, pardon, c'était la qualité rédactionnelle et l'accessibilité de ce rapport de 29 pages que je vous invite vivement à lire. Il se lit vraiment très facilement et il est passionnant à lire. Et par ailleurs, pendant la pause, Olivier me précisait que vous diffusiez vos publications sous licence libre et donc
c'est important de le préciser effectivement
surtout dans une émission voilà tout à fait alors
et peut-être pour rajouter en fait effectivement nous on l'a dit au début on est journaliste c'est pour ça qu'on fait un effort particulier pour être expliquer les choses c'est vraiment un rapport où on n'était pas dans une optique des fois on fait des enquêtes on est dans une optique de révélation c'est-à-dire voire de lever des scandales etc là c'était vraiment on voulait faire quelque chose de pédagogique pour expliquer aux gens comment ça fonctionne et dans un sens à partir des on va y revenir en long large à partir des sources qu'on a des ce qu'on peut trouver qui donnent qu'un aperçu mais qui permettent quand même de reconstituer pas mal de choses et c'est évidemment un work in progress au sens où il faudrait compléter faudrait approfondir certains aspects etc et c'est aussi une des raisons au-delà du principe qu'on a dit pour laquelle c'est publié en Creative Commons etc que ça peut être quelque chose c'est une invitation à poursuivre le travail. Et d'ailleurs, on a déjà été sollicité pour le faire et on va le faire.
Et alors, vous soulevez une question importante. Effectivement, quelles ont été vos méthodes pour aboutir à ce travail voilà, quelles ont été vos sources? Alors, j'ai évoqué le fait que vous aviez interviewé des personnes. Comment vous avez trouvé vos sources? Qui vous avez contacté? Comment choisir? Etc. Chiara?
En fait, une particularité de ce rapport, c'est que la très très grande majorité des informations sont librement accessibles en ligne. Quand on s'intéresse au lobbying, on va regarder tout d'abord au registre de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, où les entreprises et les lobbies sont supposés déclarer les dépenses accordées en lobbying et leurs activités. On en reparlera peut-être, mais c'est des informations très lacunaires. Voilà, en fait, finalement, les activités sont pas précises. On ne sait pas qui les entreprises ont vu, quel membre du gouvernement, par exemple, à peine sur quoi. On ne sait pas quand. Et les dépenses, c'est des fourchettes à 100 000 euros près. Donc voilà. Donc au départ, on a commencé à regarder là, tout simplement, et donc à découdre un petit peu la toile et de voir que autour des GAFAM, il y avait aussi toutes les associations professionnelles dans lesquelles elles se regroupaient. Mais aussi les cabinets de conseils et de stratégie auxquels les GAFAM font appel. Et j'aime bien le terme qu'on utilise dans le rapport, on en reparlera aussi, mais de mercenaires, en fait. Voilà. Et sinon, un outil qui nous a été bien utile, c'est LinkedIn, tout simplement, pour vérifier, en fait, les parcours des représentants qui sont déclarés à la HATVP, les représentants, en fait, les affaires publiques, donc les lobbyistes en fait des GAFAM, et de regarder un petit peu s'ils avaient travaillé dans le public avant, et on remarque que c'est vraiment une pratique qui est super développée. Et sinon, un outil, c'était tout simplement Twitter, où on a accès à tous les événements, tables rondes, etc., auxquels ces représentants participent, et donc via lesquels elles font du lobbying et diffusent leur influence. Donc voilà, donc la plupart des informations sont accessibles en ligne via ces canaux-là. Et après, on a contacté quelques associations, dont l'April, la Quadrature du Net, aussi les Amis de la Terre qui avaient fait un dossier sur Amazon, et aussi une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, voilà, qui avait beaucoup travaillé sur les lois AGEC.
Anti-gaspillage et oui. Économie circulaire, ouais. Olivier, vous souhaitiez compléter ?
Ouais, effectivement, Kira l'a bien expliqué, quand on travaille sur le lobbying, il y a un outil de base qui est le registre de transparence du lobbying, qui existe en France depuis 2017, et qui a plein de lacunes, et justement, d'une certaine manière, ce rapport, c'était aussi une manière de montrer ce qu'on peut faire avec ce registre, mais ça donne qu'un aperçu. Et il y a des choses qu'on peut faire, c'est montrer ce qu'on a déjà dit, mais il faut le répéter. Ce qu'on a vu au niveau européen, on le constate au niveau français. En 2017, c'était 1 million d'euros, je crois, au total pour les GAFAM. Et c'est multiplié, monté à 4 millions en 2021. Donc on voit cette augmentation. On n'a pas encore les chiffres pour 2022, parce que le délai pour publier ces chiffres, c'est bientôt, c'est le 31 mars. Donc peut-être qu'on pourra compléter sur votre page, voir s'il y a continuité d'augmentation. Et ça permet aussi, et c'est assez intéressant, de montrer effectivement ce qu'a mentionné Chiara, les liens entre... Parce que quand une entreprise fait du lobbying, il y a Google qui fait son lobbying, mais elle a des alliés en fait, et c'est ça qui la rend puissante. Premier type d'alliés, c'est les mercenaires, donc toutes les firmes de lobbying. Donc là, on montre que Google, en fait, il travaille avec une dizaine de firmes de lobbying rien qu'à Paris. Donc ils ont les moyens de se payer de l'aide, etc., qui les aident à cibler les bons décideurs, etc. Et il y a ce qu'on appelle les associations professionnelles, donc c'est les groupements d'entreprises. Donc il y a le MEDEF, la FEP, etc., qui sont les associations patronales générales, mais pour chaque secteur... Et même parfois sous-secteur, il y a des structures de lobbying. Par exemple, pour la banque, il y a la Fédération bancaire française, c'est le lobby de la banque. Et ben pour le numérique, il y en a quelques-unes. Et une des caractéristiques de ces associations, qui sont aussi très influentes, c'est qu'elles ont pour membres à la fois des Français et les GAFAM. Et c'est d'une certaine manière, le fait qu'il n'y ait pas d'association spécifique sur française vraiment, c'est un des ressorts de l'influence des GAFAM qui leur permet de faire en sorte qu'à ce niveau, il n'y ait pas de... Ces associations ne défendent pas des intérêts qui aillent trop à l'encontre de leurs propres intérêts. Donc la base de ce rapport, c'est ça. Ensuite, quand on travaille sur le lobbying, effectivement, on essaye de contacter les gens qui ont affaire à eux. Souvent, c'est les associations, les syndicats dans certains cas, etc., qui sont leurs adversaires, pour ainsi dire, en termes de plaidoyer, de lobbying. Mais le constat qu'on fait, et c'est l'autre chose que montre le registre, c'est que les moyens sont totalement disproportionnés, parce que Kira a sûrement le chiffre en tête mais je pense que le budget global de l'April, ça doit être
200 000.
3 fois moins ou 5 fois moins que les dépenses de lobbying de Google, par exemple, en France, sur une année. Quoi.
Oui, sachant
que les dépenses déclarées, c'est vraiment les dépenses déclarées par Google, et pas, il faut additionner les dépenses déclarées par les partenaires, et tout le travail qui se fait et qui n'est pas déclaré, qui n'est pas directement des rendez-vous avec des décideurs ou des notes de plaidoyer, etc. Mais tout le soft power et la bataille culturelle qui se fait derrière.
D'accord. Alors, il y a beaucoup d'éléments, de méthodologie de lobbying que vous avez évoqué. On peut commencer peut-être par expliciter ce qu'est ce soft power. C'est quoi du soft power ?
Ce qu'on a eu envie de dire avec cette expression, c'est justement de montrer que le lobbying et l'influence ne se fait pas que par des rendez-vous très officiels dans les ministères ou en étant auditionné à l'Assemblée nationale, par exemple, mais qu'aussi les GAFAM, au même titre que d'autres entreprises, sont présentes dans la sphère culturelle française par différents canaux. Donc on cite les think tanks, par exemple, qui sont des groupements supposés être indépendants, des lieux de réflexion, etc. Mais en fait, les GAFAM, en étant membres, en participant à leurs activités et aussi en les finançant, évidemment, participent à la diffusion de leurs idées et de leurs modèles. Parce qu'en fait, ces think tanks, ils vont rendre des notes, ils vont organiser des conférences, des tables rondes, etc. Les GAFAM aussi ont passé des accords avec certains médias français et des grands médias, Le Monde, Figaro, Libération, considérés comme sérieux, etc. Et aussi...
Des accords qui consistent en quoi, par exemple ?
Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais depuis une directive de 2019 sur les droits voisins, qui fait que les GAFAM sont censés être... les médias, excusez-moi, sont censés être rémunérés dès que les GAFAM, enfin, par exemple Google... cite un article du Monde, etc. Et bien finalement, sous couvert de cette rémunération, il y a des accords commerciaux qui ont été passés. Et on sait qu'il y a tout un débat sur le financement des médias, etc. Et donc là, il y a eu des accords avec aussi des associations qui regroupent des médias, donc la Ping par exemple. Voilà, mais je voulais aussi mentionner le monde de la recherche, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, où les GAFAM financent des chaires, sont mécènes de grandes écoles, d'universités. Aussi, certains de leurs représentants donnent des cours à l'université. Donc voilà, ça c'est tout ça mis bout à bout, en fait, c'est ce qui participe à la diffusion de leurs modèles et de leurs idées.
Et ça permet aussi de... Mais c'est un sujet compliqué, mais ça permet aussi de s'acheter une légitimité et, une certaine bienveillance de la part du monde des médias, etc. C'est qu'on y regarde... Et ça, il n'y a pas que les GAFAM qui le font, par exemple. Total ou LVMH, c'est pareil. C'est d'une certaine manière, ça permet d'éviter qu'il y ait des choses un peu trop... dissuader les gens d'être trop agressifs ou trop critiques, etc. Donc ça permet de...
C'est ce que montre d'ailleurs le rapport et je trouvais intéressant. C'est vrai que les GAFAM avaient quand même assez longtemps une aura de ces entreprises assez modernes qui nous permettent d'être libres, on va dire, sur la toile, de s'émanciper grâce à ces outils, etc. Et puis on voit qu'en fait, progressivement, au fur et à mesure que la population s'acculture aux enjeux, on comprend qu'en fait, non, elles sont pas du tout bienveillantes, ces entreprises. Elles poursuivent leurs propres intérêts économiques et qu'il y a beaucoup d'enjeux sous-jacents, notamment en termes de respect de la vie privée, qui vont arriver. Je trouve que le rapport met bien ça en avant. En fait, elles commencent aussi à avoir besoin peut-être de se redorer cette image, alors que...
Voilà, c'est un besoin à la base, il y a quelques années, et encore 10 ans, évidemment, elles avaient des publicitaires, elles travaillaient leur image, etc., mais c'était pas défensif, c'était offensif. Maintenant, elles sont vraiment plutôt dans une posture défensive.
Alors justement, défensif, Chiara, vous mentionnez le terme de mercenaire. Alors Marie-Odile, sur le webchat, nous fait remarquer que c'est vrai que c'est un vocabulaire guerrier un petit peu, donc voilà, dans cette offensive. Alors est-ce que peut-être ça pourrait être intéressant de comprendre ce que vous avez déjà commencé à l'évoquer, mais qu'est-ce que vous rangez derrière cette idée de mercenaire et quel est leur rôle dans tout ça? Comment ça fonctionne?
Quand on dit que les cabinets de lobbying auxquels font appel les GAFAM sont des mercenaires, c'est parce qu'ils font appel à ces cabinets pour mener leur bataille, pour mener leur guerre, donc, et pour être sur, pour réutiliser le champ lexical de la guerre, être sur tous les fronts. Donc tout le front culturel dont on a parlé et dont on pourra encore parler, et le front législatif, mais aussi au niveau local, où il y a des actions, par exemple quand Amazon veut s'implanter, etc. Donc être sur tous les fronts, et donc vraiment les mandater pour faire ce travail-là. Et donc profiter, c'est des entreprises américaines qui sont assez jeunes. Donc, en faisant appel à ces cabinets, elles profitent de toute l'expérience, le carnet d'adresses, l'expertise de ces cabinets qui sont bien, bien implantés dans Paris et à Bruxelles.
Voilà, donc on appelle ça mercenaires, en gros, parce qu'ils travaillent pour ceux qui ont le plus d'argent. Et dans le domaine du lobbying, c'est les entreprises qui ont le plus d'argent. Et, et donc, c'est une série de cabinets de lobbying, de relations publiques, etc., qui effectivement offrent ces services aux entreprises. Et avec donc il y en a qui sont globales, il y a des firmes globales avec lesquelles travaille Google et compagnie, il y en a qui sont spécifiquement françaises, qui aident, comme vient de le dire Chiara, justement, à porter cette expérience, cette aura de respectabilité. C'est les mêmes, quand Google utilise le même cabinet de lobbying que LVMH ou Danone ou je sais pas quoi, voilà. Ça permet aussi de rentrer dans le jeu, d'acculturer un peu les GAFAM à la sphère française, quoi.
Entendu. Alors vous parlez d'argent et ce que montre aussi le rapport, c'est ce que vous appelez la montée en puissance, hein. Bah, Chiara, vous aviez évoqué, hein, je l'évoquais même en introduction, qu'il y a eu cette multiplication par 3 entre 2017 et 2021 des sommes investies par les GAFAM, je trouve que le rapport le met assez bien en évidence. Qu'est-ce que témoigne pour vous cette montée en puissance, Chiara, Olivier?
Ce qui est frappant, je pense, c'est que, on l'a pas encore mentionné, mais les GAFAM, en fait, ils sont sur tous les sujets. C'est incroyable. Enfin, ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur l'étendue de leur modèle. C'est qu'ils sont pas, ils se contentent pas de faire du lobbying sur le secteur numérique. Ils sont tellement présents partout qu'ils vont faire du lobbying sur des problèmes d'alimentation, en ce qui concerne Amazon, je crois, ou Google, je sais plus, de transport en matière d'Amazon parce qu'ils ont des enjeux de livraison, de taxes, évidemment de fiscalité parce que c'est un gros enjeu d'être public, d'aider à l'innovation. Donc ils sont vraiment sur tous les. Pour moi, cette montée en puissance, elle reflète à la fois le fait qu'ils sont de plus en plus contestés. Donc, il y a eu en partie, il y a des projets de taxes GAFAM, etc. Donc, ils ont travaillé là-dessus, évidemment. Mais aussi le fait qu'ils sont tellement, ils sont devenus tellement puissants, étendus, etc., que, ils se sont amenés à n'importe quelle loi maintenant, une loi climat, une loi alimentation, comporte des dispositions qui vont impacter le modèle des GAFAM. Et donc, ils font du lobbying dessus, quoi.
Je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment une chose dont je me suis rendu compte en travaillant sur ce sujet. D'ailleurs, on mentionne dans le rapport quelques dossiers noirs, entre guillemets, des GAFA, mais on voit que c'est vraiment sur des thèmes très diversifiés, allant de l'environnement à la régulation des contenus terroristes sur les réseaux, voilà, en passant par la fiscalité, comme Olivier l'a dit.
Effectivement, ils ont des impacts vraiment sur un champ politique très très large. Alors on a parlé aussi d'une autre méthode classique, hein, je veux dire de lobbying, mais on va voir comment les GAFAM s'en saisissent. Alors on parle de porte-tambour, de pantouflage, de rétro-pantouflage. Alors c'est ce qu'a évoqué le fait qu'on puisse travailler dans le public, puis dans le privé, revenir au public et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez fait ressortir sur ces... Qu'est-ce que vous avez analysé sur cette question concernant les GAFAM?
C'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé tout à l'heure quand on a mentionné les portes tournantes. En fait, c'est un mécanisme bien établi qui consiste pour des entreprises à recruter des personnes ayant eu des postes dans des administrations ou des mandats d'élus. Donc, qui connaissent bien le fonctionnement des institutions dans lesquelles ou pour lesquelles elles ont travaillé et qui ont aussi un carnet d'adresses rempli et solide, voilà, qui permet derrière de faciliter les discussions littéralement interpersonnelles entre ces entreprises et le pouvoir, voilà, et les sphères publiques. Donc, et on remarque que dans le cas des GAFAM, c'est vraiment une technique qui ne loupe pas. En fait, dès que j'ai regardé pour chaque GAFAM et pour d'autres entreprises du numérique, il y en a toujours plusieurs. Il y a toujours plusieurs représentants qui ont travaillé dans le public et pour certains qui ont occupé des postes dans la durée.
Dans le rapport, vous parlez d'accès privilégié avec un souci des relations étroites et souvent opaques au cœur du pouvoir.
Voilà, en fait, dans le rapport, toujours dans cette optique didactique, disons, dont je parlais pédagogique, on a distingué quatre niveaux en fait de l'influence des GAFAM. Donc on en a parlé déjà de deux, c'est ce qu'on appelait le soft power, donc comment ils travaillent l'opinion publique, les médias, ils cadrent un peu le débat public le champ des possibles pour les décideurs, disons, pour simplifier. Il y a le lobbying stricto sensu, donc là, la question de quel budget ils mettent, quels aides ils ont, on en a parlé aussi. Et il y en a encore deux autres, le lobbying passif dont on reparlera sûrement bientôt, et celle-là, qu'est-ce qu'on appelle... Faut de mieux l'accès privilégié. Et ça, sous ce terme, en gros, on regroupe toutes les manières dont les grandes entreprises et les GAFAM en particulier ont un accès privilégié aux décideurs et qui permet de peser sur leurs décisions dans des lieux qui sont pas publics où il n'y a pas de débat contradictoire. Donc ça va au-delà du lobbying où le lobbying, d'une certaine manière, on l'a évoqué, même s'il y a une disproportion de moyens. Il y a entre ceux qui font du lobbying et ceux qui font du plaidoyer, disons les associations comme vous. Au moins, il y a un peu de contradictoire. En partie, ça se passe au Parlement, etc. Donc c'est pas loin d'être parfait, c'est très inégalitaire, mais bon, on est encore un petit peu dans le champ de la démocratie. Là, quand on parle d'accès privilégié, justement, on est dans le champ, c'est la phase un peu plus obscure du lobbying, des passe-droits, on va voir, et c'est ce qu'ont illustré les Uber Files, dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant, voilà, Uber avait la possibilité d'accès direct à Macron et à ses conseillers pour les aider, y compris contre sa propre administration ou contre l'administration de Bercy qui faisait des enquêtes fiscales, etc. Et cet accès privilégié, il a deux aspects. Le premier, c'est celui qu'on vient de dire, tout ce qui est porte tournante, pantouflage, donc le fait de recruter des anciens hauts fonctionnaires, des gens qui travaillent dans des autorités de régulation. Et là, évidemment, Google ou autre, mais Google est particulièrement fort là-dessus.
D'accord.
Mais les autres le font aussi. Ils ont des moyens, ils ont évidemment les moyens de faire miroiter des postes super intéressants, super bien rémunérés, beaucoup mieux rémunérés que ceux que propose la haute fonction publique, même s'ils sont déjà bien payés. Et des opportunités de développement étranger, près de prestige, parce que jusqu'à présent, et même encore maintenant, travailler pour Google, c'est super prestigieux. Et donc ça, mais c'est une face, effectivement, ça leur permet d'accéder à l'information, d'identifier les bons décideurs, d'avoir un accès privilégié, un accès direct. Ils savent qui il faut contacter, et puis ils le tutoient, ils se connaissent son numéro de portable, etc. C'est des choses aussi simples que ça. Et un autre aspect sur lequel on insiste pas mal, c'est cette question des contacts et des rendez-vous entre décideurs et lobbyistes, parce que c'est ce qu'ont aussi mis en lumière les Uber Files, cette capacité de contacter directement Macron et ses conseillers, par exemple, et qu'il n'y avait aucune transparence là-dessus. Donc un des points, et là où je pense avec les ONG qui travaillent sur la transparence du lobbying, où il y a vraiment beaucoup de progrès à faire, c'est sur cette question d'obliger les dirigeants politiques, les ministres, mais pas seulement, leurs conseillers, et puis autant que possible, à publier leurs rendez-vous et leurs contacts avec les lobbyistes, et aussi à rendre public des informations sur ces rendez-vous, qu'est-ce qui s'est discuté, qu'est-ce qu'ils défendaient comme position, etc. Donc je dis ça, c'est l'air d'un vœu pieux, mais en Europe, au niveau européen, ça existe un peu, partiellement. Et donc, on sait par exemple que Google, Facebook, ils ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec la Commission européenne ces dernières années, beaucoup plus que tout le monde. Et on a théoriquement la possibilité de demander des infos sur ce qui s'est discuté. En France, ça n'existe pas. Enfin, ça existe un peu, mais c'est volontaire. Et donc, un des progrès qu'on pourrait faire en termes de progrès de transparence du lobbying au moins, qui est de la transparence, mais ça permet de, notamment de suivre en temps réel ce qui se passe, c'est d'avoir cette transparence. Et là, donc, du coup, Chiara a fait le travail un peu sur de regarder les agendas des ministres, et notamment de Jean-René, c'est ça qui s'appelle, c'est ça son prénom,
Barrault.
Jean-Noël, pardon. Jean-Noël Barrault, le secrétaire d'État à la transformation numérique, qui, voilà. Et qui, en fait, on pensait initialement au tout début qu'il publiait pas son agenda, parce qu'ils ont pas été capables, malgré tous leurs outils, de le rendre facilement accessible. En fait, il le publie, mais on a analysé ses rendez-vous avec qui il a vu au cours des derniers mois. Effectivement, on voit que c'est totalement disproportionné en faveur du secteur privé, et qu'il voit très peu les associations. Je sais pas si vous l'avez rencontré.
Non.
C'est très dur pour une association de rencontrer un ministre ou voir ses conseillers. Et donc, c'est une autre forme d'accès privilégié où il y a besoin de transparence, quoi.
Et aussi, on voit que à la fois, il faut regarder sur le registre de la HATVP qui est soumise au bon vouloir des entreprises. Est-ce qu'elles vont vraiment déclarer les rendez-vous? Et encore une fois, c'est sur des fourchettes. Donc, c'est par exemple du 1er janvier au 31 décembre et avec un titre carencé. Par exemple, Amazon va rencontrer un membre du Parlement sur la loi climat et résilience. Mais on ne sait pas quel membre, ni sur quel article, ce qui a été dit et dans quel cadre. Est-ce que c'est un rendez-vous dans un bureau? Est-ce que c'est un dîner, etc. Et ensuite, on voit qu'il faut aller chercher du côté des dirigeants eux-mêmes. Donc, c'est pas du tout centralisé. Les dirigeants, ça dépend s'ils publient bien leurs agendas, s'ils les mettent à jour chaque semaine ou pas. Voilà, on voit que c'est très, très opaque.
Alors moi, dans une de mes tâches, fichier de suivi de tâches, je dois remplir pour l'April cette déclaration, parce que c'est tout déclaratif pour la haute autorité, pour la transparence de la vie publique. Et effectivement, même quand on cherche à remplir, c'est très flou et on sent qu'il y a une certaine volonté de maintenir un flou sur la question. Alors, vous avez évoqué, je vois que le temps file, la question du lobbying passif. Alors, quelle est la différence avec le soft power? En quoi ça consiste, ce lobbying passif? On peut évoquer déjà la question, mais on peut rentrer dans un peu plus de détails.
Je dirais que c'est... On parlait de lobbying passif parce que on l'a mentionné dès le début que c'est des entreprises et des modèles qui se veulent incontournables. Et donc, en fait, au sein même de l'État, c'est pas quelque chose qui... Les GAFAM sont pas débattus parce que déjà, les administrations publiques vont les utiliser et compter sur ça. Et quand on parlait du Health Data Hub, par exemple, un des arguments qui a été avancé, c'était qu'en fait, seul Microsoft était capable de gérer tant de données, etc. Donc, c'est comme si finalement, il n'y avait par défaut aucune autre alternative et que l'État le reconnaissait. Et en plus, ça c'est aussi quelque chose qu'on a mentionné, il y a un manque, et que vous devez vraiment voir à l'April au quotidien, qu'il y a quand même un manque de connaissances et d'expertise technique ou de connaissances du secteur par les dirigeants, qui fait qu'en fait, on va recourir à l'expertise de ceux qui ont les moyens, donc les GAFAM qui ont le temps, encore une fois, de produire des notes, de mettre à disposition leur expertise technique, et donc compter sur cette expertise-là pour légiférer sur eux.
Je vais juste préciser que Health Data Hub, c'est en gros une plateforme d'accès qui organise l'accès aux données de recherche pour en permettre de faire des recherches dessus, effectivement. On avait organisé une émission sur le sujet, vous pouvez taper Health Data Hub dans le site de Libre à vous et vous pourrez retrouver nos échanges à ce sujet.
Ouais, ça permet de boucler un peu sur une des questions qu'on a évoquées au début, qui est en quoi le lobbying des GAFAM, il est différent et
parfait.
De ceux des,
c'était ma prochaine
des
question.
Multinationales. Effectivement, tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, d'une certaine manière, donc le lobbying, le fait de faire appel à des cabinets de lobbying, etc., de dépenser beaucoup, le fait de recruter d'anciens hauts fonctionnaires, le fait d'avoir une ligne directe avec l'Élysée ou les ministres, le fait de financer les médias, de financer les think tanks, etc., la recherche. Ça, tout le monde, toutes les multinationales le font, ça fait partie de la panoplie un peu globale pour les multinationales quand elles veulent faire de l'influence. Là, on a tendance, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, elle voit le lobbying par le petit trou de la lorgnette. Bon, c'est pas sa faute, c'est la faute des législateurs, bien sûr, c'est pas pour les accuser eux. À cause des lois en vigueur, ils voient le lobbying par le petit trou de la lorgnette. juste la première partie. Il s'occupe pas trop de transparence pour l'instant, de transparence des rendez-vous avec les décideurs, comme on l'a dit. Ils encadrent, commencent à encadrer un peu les portes ouvertes, mais pas trop. Les règles sont assez floues, faciles à contourner. Il n'y a aucune transparence sur les financements de médias, etc. Ça pourrait, c'est une des choses sur lesquelles on pourrait avancer. Mais tout ça, les GAFAM le font comme tous les autres, avec quelques différences. Un, ils ont beaucoup plus d'argent que tout le monde. Et deux, sur ce qu'a mentionné Kira sur les médias, ils ont une relation très particulière avec les médias. Et ils ont aussi ils sont des médias d'une certaine manière, donc ils ont le seul levier d'influence. À la limite, ils n'ont même pas besoin d'acheter des médias parce qu'ils peuvent faire passer leur message directement, ce qui est assez spécifique pour une multinationale. Et ensuite, dernière composante, ce qu'on appelle lobbying passif, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on observe dans d'autres secteurs, mais qui est vraiment poussé jusqu'au bout par les GAFAM. C'est en gros le contrôle de l'expertise et le fait que les pouvoirs publics aient intériorisé leur dépendance envers cette expertise. Donc souvent, en matière de lobbying, un des nerfs de la guerre, c'est pour les entreprises, c'est ils contrôlent l'info, ils disent « vous comprenez pas, on va vous expliquer, vous pouvez pas nous réguler, c'est pas possible ». Et là, effectivement, comme tous les enjeux du numérique, un, sont nouveaux, pour beaucoup de gens dans les ministères, etc., ils connaissent pas bien. Deux, les modèles qu'on a décrits un peu des GAFAM, qui jouent sur différents tableaux, qui sont des monopoles, ils comprennent pas. Je pense du point de vue économique, ils comprennent pas le vrai modèle des GAFAM. Ils ont quand même tout tendance à avoir encore dans Amazon, à vendre quelque chose qui vend des livres, et c'est tout. Et Google, un moteur de recherche, et c'est tout. Et pour toutes ces raisons, il y a vraiment une... avec des exceptions, il y a un manque de questionnement et une acceptation des GAFAM, ce qui fait que beaucoup d'administrations, beaucoup de services publics font appel sans se poser de questions. Et le pire exemple, c'est quand même l'éducation nationale, jusqu'à il y a pas longtemps, qui avait ses accords avec Microsoft, etc. Mais on le voit dans d'autres secteurs. Sans se poser trop de questions, ils utilisent les outils, d'autant plus que les GAFAM disent « on vous les met à disposition et gratuitement », etc. Ils les imposent aux usagers, etc. Et ça a plein de bénéfices pour les GAFAM. Un, ils contrôlent le marché, donc c'est eux qui ont le contrôle. Deux, c'est quand même une fois aussi une forme de soft power, parce qu'ils disent on vous apporte tous ces outils, vous n'allez pas trop nous réguler, etc. Vous n'allez pas faire des cours à l'éducation, à la vraie souveraineté numérique, ou des cours de logiciels libres dans les écoles quand même. Bon. Et trois, ils se positionnent, et ça c'est vraiment un ressort de lobbying qu'on voit un peu dans d'autres secteurs, mais comme la solution en fait. Ils disent, ils sont pas des entités privées que le gouvernement doit réguler, et ça on le dit dans le rapport, et c'est important, c'est vraiment important de le souligner, ils se positionnent comme des partenaires du gouvernement en fait, c'est eux. Et en ce sens, ce qui est un peu effrayant aussi avec ces GAFAM, c'est qu'ils se positionnent clairement quand ils parlent au même niveau que les États. On dit on va vous aider à régler vos problèmes, on va vous aider à régler vos problèmes de santé, améliorer à trouver des bons traitements, on va vous aider à éduquer vos enfants, faites-nous confiance, etc. Et cette visée un peu flippante, totalitaire, de la vision de la Silicon Valley, elle est quand même assez sous-jacente. Ils le disent jamais aussi explicitement, mais elle est sous-jacente. Et c'est pour moi, là on parle des dangers concrets, mais effectivement... Il y a des dangers à terme à réfléchir sur l'éducation et les secteurs encore pas privatisés, pas libéralisés, ou assez peu privatisés, libéralisés, comme l'éducation et la santé, où là, effectivement, on va vers des modèles de plus en plus où on aurait de plus en plus recours au numérique et sous couvert de numérisation, donner encore plus de place aux GAFAM.
On voit une tendance parfois à ce que des services du type de ceux des GAFAM se substituent à des services publics et l'État se faisant volontiers cette direction.
Le lobbying passif, c'est une forme de privatisation aussi, donc il y a une problématique privatisation qui est aussi du même coup un levier d'influence pour les GAFAM. Quoi.
Je vais juste citer, Kara, je vous donne la parole tout de suite, l'action d'Anticor notamment, qui a posé une plainte pour favoritisme autour justement vis-à-vis de Microsoft au sein de l'éducation nationale. Donc il y a aussi des contre-pouvoirs qui existent fort heureusement.
Je voulais dire, quand on dit que les GAFAM se posent en tant que partenaires, ça va sur des sujets aussi variés que la santé à la lutte contre le terrorisme, où il y a par exemple une mission Facebook, où Facebook a rencontré plusieurs fois où littéralement le gouvernement a fait appel à Facebook pour l'aider dans la lutte contre les contenus haineux en ligne. Il y a aussi des collaborations sur des missions de fact-checking, donc pour réguler les fake news, etc. En fait, on va dire aux GAFAM, on a besoin de vous pour lutter contre ça, et pas forcément vous êtes le problème.
Et oui, c'est quelque chose qu'on se rend beaucoup compte quand on a travaillé sur la directive droit d'auteur ou sur plein de textes comme ça. C'est ils sont posés en référence et on doit construire la législation autour de ces références-là plutôt que de se poser sur des politiques publiques un peu plus ambitieuses.
Et on en revient à ce qu'on disait tout au début, c'est-à-dire qu'ils ont posé toutes les règles dans une variété de secteurs immenses et tout le monde va s'adapter autour de ça et composer avec.
Je pense que ça nous offre une très belle conclusion sur ce sujet. Chiara, je crois que vous vouliez quand même aussi évoquer, en fait le sujet est très lié, un autre dossier sur lequel vous travaillez, donc la vidéosurveillance automatisée dans le cadre de la loi pour les JO. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots ?
Mentionner que c'est une loi, donc la loi JO 2024, qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale, qui est déjà passée au Sénat, qui a été votée en commission et qui est débattue cette semaine à l'Assemblée nationale, avec notamment l'article 7 qui viserait à développer la vidéosurveillance algorithmique, donc VSA, soi-disant juste dans le cadre des JO, mais qu'en fait c'est sûrement un dispositif qui va être pérennisé et qui a de gros enjeux en termes de liberté, de données personnelles aussi, de racisme, etc., puisque c'est des algorithmes qui vont évaluer certains comportements. Et voilà. Et donc, c'est intéressant de relier à ça, parce que derrière tout ça, il y a aussi une industrie très forte et un lobbying assez fort. Et que vu tous les investissements que les industriels font dans ce secteur, que ce soit des grosses entreprises comme Thales, etc., ou des startups plus petites, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va se limiter au JO 2024 et qui va sûrement malheureusement se pérenniser dans le temps. Et il faut s'y intéresser.
Alors, je vous invite d'ailleurs à regarder la campagne Technopolis de la Quadrature du Net qui s'investit beaucoup sur ces enjeux-là et qui mène un travail très important. Merci beaucoup pour ces clarifications. Il nous reste très peu de temps, mais j'ai quand même envie de vous donner au moins une minute chacune pour donner s'il y a une idée forte que vous souhaitez qu'un lecteur ou une lectrice de votre rapport retienne, ou quelqu'un qui aurait écouté notre émission. Voilà, une ou deux idées fortes en une minute. Je sais que c'est pas facile, mais je vous propose.
Non, mais les deux idées fortes, c'est ne pas sous-estimer la capacité d'influence des GAFAM et les différentes manières, tous les leviers un peu tentaculaires qu'ils utilisent. Et ce qui explique que malgré tous les discours, on entend sans cesse, si on écoutait juste nos ministres et nos présidents, on aurait l'impression qu'ils sont en train de se battre contre les GAFAM pour la souveraineté. En fait, non. Et les GAFAM, grâce à ces leviers d'influence, ils réussissent à être des partenaires de la souveraineté, en fait. Et ça se voit avec le Health Data Hub dont on a parlé et d'autres choses. En fait, ça devient des partenaires de souveraineté. Et l'autre élément qui va un peu au-delà de ce qu'on dit dans le rapport, c'est vraiment, les GAFAM, ils symbolisent une certaine vision de l'innovation, en fait, qui est au niveau totalement commercial, etc. Ça a été dit dans la chronique sur le logiciel. C'est une vision de l'innovation. Ce qui est innovant, c'est de trouver de nouveaux moyens de faire de l'argent sur le dos des consommateurs, des usagers. Et c'est très dangereux parce que c'est une vision qui est en train de contaminer beaucoup d'autres secteurs. Là, on n'en a pas trop parlé dans le rapport, mais il y aurait tout un rapport à écrire sur l'influence des GAFAM en matière de climat, par exemple. Je pense qu'ils ont joué un grand rôle de pousser cette vision que tout allait être résolu par la technologie et donc il n'y avait pas d'autres soucis à se faire, etc. Et voilà. Donc c'est au-delà des GAFAM, proprement dit, c'est cette vision qu'ils ont réussi pour l'instant à distiller au niveau du gouvernement et dans beaucoup de secteurs de la société.
Chiara ?
Moi, je dirais de rester vigilant face à la séduction des GAFAM qui ne nous veulent pas que du bien, s'intéresser à leur modèle, à leur fonctionnement, à nos données et de s'éduquer au maximum sur ces libertés informatiques.
Super, je pense que je pourrais difficilement dire mieux. À nouveau, un grand merci Olivier Petitjean, Chiara Pignatelli pour être venu échanger avec nous et puis pour votre excellent rapport que vraiment j'insiste. Allez lire, il fait 29 pages, il est vraiment très bien écrit, il y a des belles illustrations, des belles infographies pour le rendre accessible. Et je pense qu'il faut vraiment le diffuser et le faire lire.
Merci à vous.
Merci.